sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi.
Je voudrais vous partager un message qui est un peu la suite du message que j'avais donné il y a 15 jours de cela, un mardi soir, et qui s'intitulait « Foi au carré ». Foi au carré qui est foi, foi, foi. C'est foi, F-O-I, foi, F-O-I-S, foi, F-O-I. Avec le désir que, eh bien, Dieu augmente et augmente et augmente encore pour les années qui viennent la foi de chacun d'entre nous. Et nous permettent au travers d'une foi qui augmente de nous saisir de plus en plus et toujours davantage des promesses que Dieu veut accomplir et qu'il nous donne au travers de sa parole. Amen. Laissez-moi vous rappeler les quelques points dont j'avais parlé. Je parlais notamment de l'exemple d'Abraham dans Genèse chapitre 22 verset 1 où il est dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait mesurer la foi d'Abraham. Et je pense que Dieu veut mesurer la foi de chacun d'entre nous. Et l'épreuve, nous l'avons entendu tout à l'heure, dans une parole de connaissance, où il a été dit que Dieu met le doigt sur la foi de quelqu'un et permet que son épreuve, eh bien, puisse le fortifier dans sa foi. Dieu a mis Abraham à l'épreuve et Abraham... à qui il a été dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac » dans Genèse chapitre 22, verset 2. « Va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham est sorti de cette épreuve avec la mention « Excellence ». Il a eu le Stamfel père de la foi, le Stamfel divin. Avec la version AOC ou AOCC, appellation d'origine contrôlée par le ciel. Amen. Et j'espère que si Dieu doit mesurer la foi de chacun d'entre nous, celle-ci puisse obtenir l'appellation AOCC, appellation d'origine qui a été contrôlée dans l'épreuve souvent par le ciel et par l'attitude que tu as eue alors que l'épreuve était présente. Et puis j'ai parlé de ce centenier romain qui dans Matthieu chapitre 8 verset 8 dit alors que Jésus voulait l'accompagner pour que son serviteur soit guéri, dit mais je ne suis pas digne que tu m'accompagnes, pas digne que tu viennes avec moi, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. La foi en la parole de Jésus qui n'a pas besoin de voir la présence de Jésus mais la foi en sa parole a suffi pour que ce serviteur soit guéri. Et il mesurera bien sûr la foi de ce centenier en disant dans Matthieu chapitre 8 verset 10 « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Puisse Dieu faire le constat de la taille de cette foi pour chacun d'entre nous. Puis je parlais évidemment des deux textes où il était parlé des grains de sénévé et où la parole de Dieu nous dit que si notre foi est aussi grande que la taille d'un petit grain de sénévé ou d'un grain de moutarde, alors elle nous permet de faire deux choses un peu différentes qui sont citées dans deux textes, Matthieu 17. Elle nous permet d'abord, de dire à la montagne « Transporte-toi d'ici à là » et elle se transporterait. Et dans ce texte, il est dit « Rien ne vous serait impossible ». Le contexte de ce texte, c'est ce fils lunatique qui se jetait tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Et les disciples sont venus en disant « Mais nous ne pouvons rien faire pour lui ». Et Jésus leur a dit « Bande d'incrédules ». Autrement dit, leur foi était à ce moment-là inexistante. Et Jésus leur dira, mais si vous avez la foi aussi grande qu'un grain de sénévé, alors vous auriez pu dire à ces démons qui tenaient ce fils de le quitter, et ils l'auraient quitté. Une foi qui se dirige dans des situations extérieures, mais également intérieures, puisque je parlais de ce texte dans Luc 17, de ce texte où la foi produit également un changement à l'intérieur de nous. Et il est parlé là de cette situation où peut-être que nous trouvons dans l'église des frères ou des sœurs qui nous énervent. Enfin, pas ici dans l'église, mais dans certaines autres églises. Peut-être des situations où on nous énerve vraiment. Hein. Je ne sais pas si un frère ou une sœur vous a déjà énervé. Mais en tout cas, dans Luc 17, oui, dit Dominique. Je sais qu'elle ne parle pas de son mari. Et pour retenir le texte de Luc 17, il y a un moyen un peu mnémotechnique. Moi, j'ai du mal à retenir les endroits où se trouvent les textes. Mais dans Luc 17, il dit qu'il faut pardonner 17 fois. Non, dans Luc 17, il dit qu'il faut pardonner 7 fois. Il dit 7 fois, il faut pardonner. Donc c'est, même là, je m'y paume un peu. Mais il dit que 7 fois, il faut pardonner. Si le frère revient à toi, si la sœur, parce qu'il ne concerne pas que les frères, ce texte, hein. Mais si le frère ou la sœur viennent vers toi, et que 7 fois, dans un seul jour, ils t'ont offensé, mais qu'ils viennent sincèrement, ils se repentent et te demandent pardon, alors 7 fois, tu dois lui pardonner. Et c'est suite à ce texte qu'il dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu dirais aussi qu'au mort, déracine-toi de là et va te planter dans la mer. Et les racines nous parlent évidemment de ce qui se passe, eh bien, au plus profond d'entre nous, à l'intérieur de nous. Et puis je terminais par deux exemples dans Matthieu 14, où Pierre a marché sur l'eau, mais a regardé aux circonstances. Et à cause des circonstances, eh bien, a coulé tout à nouveau. Et puis ce texte dans Marc chapitre 4, où les disciples ont eu peur, et plutôt que de se blottir contre Jésus, de compter sur lui, ils ont paniqué. Et Jésus alors a dit à la tempête, « Silence, tais-toi !» Et la tempête s'est calmée. Et Jésus alors s'est posé la question de savoir pourquoi ils étaient tellement incrédules. J'aimerais continuer eh bien, sur cette lancée-là, en parlant d'une troisième barque. Une barque qui se trouve dans le texte de Jean chapitre 21. J'aimerais vous embarquer avec moi dans ce texte-là et vous dire que le contexte du texte de Jean chapitre 21, c'est d'abord Jean chapitre 20. Et Jean chapitre 20 termine par l'histoire d'un homme incrédule qui s'appelait Thomas. Vous connaissez tous Thomas l'incrédule. Voilà que Jésus apparaît pour la seconde fois à ses disciples et parce que Thomas n'était pas là, Jésus revient et il reproche à Thomas de ne croire que ce qu'il voyait. Quelle foi ! Croire ce que tu vois. Il est dit dans ce texte au verset 27, Jésus dira à Thomas, ne sois pas incrédule mais crois. Pierre, son adage, c'était « Je ne crois ce que je vois. Je ne crois pas autre chose que ce que je vois. » C'est comme si moi, je vous disais, mais moi j'ai une grande foi, Sam et Dominique sont assis sur leur chaise, je le crois. Vous diriez, mais oui, c'est pas compliqué, tu les vois assis sur leur chaise. Tu ne peux que croire qu'ils sont assis sur leur chaise. Quelle foi, mais quelle incrédulité! La foi, eh bien, doit te permettre de croire aux promesses que tu ne vois pas encore, mais qui, parce que tu as la foi en ces promesses, eh bien, vont déclencher l'intervention de Dieu et permettre à ces promesses de s'accomplir. Et c'est de cette foi-là que tu dois apprendre. Il dira au verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui... » n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ça la vraie foi. Et puis quand vous prenez la conclusion de ce texte, Jean chapitre 21, j'aime la conclusion où il est dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Beaucoup d'autres miracles. J'aime la conclusion de ce livre. Et alors quand on lit la conclusion de ce livre, on a envie de fermer le livre et on se dit « ça y est, j'ai lu le livre de Jean, il est conclu ». Mais Jésus, après la conclusion de ce livre, rajoute encore un appendice. Un appendice, c'est un rajout à un texte. Ce sont des notes qui sont prises. C'est un peu, j'aimerais aujourd'hui au travers de ces notes, entre la conclusion de Jean chapitre 20, Et la conclusion qui, quand vous la lisez, de Jean chapitre 21, est à peu près identique à la conclusion de Jean chapitre 20. J'aimerais qu'entre ces deux conclusions-là, vous puissiez prendre note des quelques notes que j'aimerais partager avec vous. C'est un peu comme des toasts spirituels. Vous savez, tout à l'heure, on va prendre des toasts physiques. Eh bien, j'aimerais, avant que vous nourrissiez de ces excellents toasts physiques qui vont nourrir votre corps physique, j'aimerais que vous puissiez vous nourrir de quelques notes qui se trouvent dans cet appendice tellement important qui est après la conclusion de Jean chapitre 20. Parce que avec Jésus, rien n'est jamais conclu. Quand nous pensons que nos difficultés concluent nos vies, eh bien nous pouvons croire que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il a encore quelque chose à rajouter. Je ne sais pas comment tu as conclu l'année passée, l'année 2014. Peut-être que le bilan que tu as fait en début 2015, eh bien, trouve une conclusion compliquée, difficile, un peu triste de ce que tu as vécu en 2014. Mais ne reste pas sur cette conclusion-là, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu a encore des notes à écrire au travers de ta vie et de ce que tu vas vivre. Dieu va encore rajouter un appendice qui te permettra de dire, eh bien oui, le Dieu que je sers est un grand Dieu. Et je dois le croire de tout mon cœur. Première note, Jésus m'aime. Ça, c'est ce qui ne doit pas se séparer de votre foi. C'est que Jésus vous aime, et parce qu'il vous aime, il veut vous bénir. Ce texte commence par « Jésus se montra aux disciples ». Et Jésus veut se montrer à vous comme quelqu'un qui vous aime. Vous savez, je parlais du contexte de ce texte tout à l'heure. Il n'est pas tellement brillant au niveau de la foi, puisque entre Pierre, qui a renié 3 fois Jésus, et Thomas, l'incrédule, qui n'a pas cru sans avoir au préalable vu, eh bien, Jésus se trouvait là dans un contexte d'incrédule. Et pourtant, Jésus revient pour une 3e fois au milieu de ses disciples. Pourquoi ? Parce que Jésus nous aime tellement qu'il aime être dans notre présence. Jésus aime être proche de nous. Vous savez, souvent quand je fais des camps ou des colos, je me réjouis de ce que Dieu accomplit dans le cœur des jeunes. Je me réjouis de ce que nous vivons. Je me réjouis de la puissance de Dieu qui se manifeste. Et puis lorsque je vois tout au long de l'année certains de ces jeunes qui se sont engagés, qui ont dit oui à Jésus, qui ont répondu par un ok ferme, quand je vois que ces mêmes jeunes, et plusieurs d'entre eux l'ont fait cette année, font des tentatives de suicide, plongent dans la dépression, plongent dans la difficulté, et ne pensent pas que Dieu puisse agir dans leur vie. Alors de temps en temps, je me surprends à dire ce que Jésus disait aux disciples, « Mais Seigneur, combien de temps serai-je encore au milieu de cette race d'incrédules ? Combien de temps me placeras-tu encore avec toute l'équipe d'Antizone, de Quartier Libre ? Combien de temps nous placeras-tu encore au milieu de ces jeunes qui pourtant voient ta gloire, mais continuent à être incrédules ?» Mais voyez-vous, je crois que si Dieu se plaît à mesurer la taille de notre foi, lorsque vous mettez Madame Foi et Madame Espérance à côté de Monsieur Amour, la taille de l'amour est toujours plus grande que la taille de la foi et de l'espérance. Et si je suis de temps à autre incrédule quant à ce que Dieu fait dans le cœur de ces jeunes, parce que souvent ils le refusent, je dis, Seigneur, mais je veux que, bien à ma petite foi, soit rajouté un grand amour qui me permet de continuer, de persévérer malgré tout. Et année après année, nous les suivons, nous travaillons à côté d'eux, nous ne voyons pas le fruit, des fois même le contraire de ce que nous pensons avoir semé et devoir porter du fruit. Mais je dis, Seigneur, je veux persévérer parce qu'on les aime tellement, ces jeunes. On les aime tellement. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, il est dit « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » N'ayons pas une foi rigide, mais ayons une foi qui, motivée par l'amour, nous permet de persévérer, même quand nous ne voyons pas toujours, eh bien, le fruit ou le résultat de cette foi mise en action. quant aux promesses de la parole de Dieu. Et puis la deuxième note que j'ai prise, c'est que Jésus est quelqu'un de très attentionné. Il est dit, alors qu'il voyait les disciples avoir pêché toute la nuit et n'avoir rien pris, voilà ce qu'il leur dit dans Jean chapitre 21 verset 5, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Jésus se préoccupe de leur quotidien. Il se préoccupe, oui, de la grande église que nous sommes. Mais l'église est constituée de pierres vivantes, de personnes que Jésus aime et de qui il se préoccupe jour après jour. N'avez-vous rien à manger ? J'ai eu en début d'année par une très chère amie un cadeau qui est un carnet de notes. Et je lui ai dit, écoute, moi je vais dans l'année qui vient utiliser ce carnet de notes pour noter à l'intérieur tous les miracles que Dieu fera en 2015. Et je lui ai dit, mais je pense que ton carnet de notes, qui est quand même déjà bien épais, eh bien sera trop petit. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Mais quand nous considérons qu'il agit également dans les détails de notre vie, parce qu'il se préoccupe de nous, alors d'une multitude de manières, nous pouvons voir sa main agir et écrire les miracles qu'il accomplit dans notre vie. Permettez-moi de vous en donner un qui s'est déroulé hier, avant-hier. En 2014, j'ai eu la joie de fêter mes 50 ans. Et puis, lors de cet anniversaire, une amie nous a offert, à mon épouse et moi, un week-end dans les arbres. Voilà, Claudia, c'est une idée, tu peux le demander à ton mari. Et puis, bien sûr, nous étions très contents. Et alors, on regardait notre agenda. Et puis, en regardant l'agenda, on voyait que la seule date qui restait libre, c'était le 23 mai. Et alors, je le dis pour qu'elle puisse réserver. Et je me rends compte, quand je vois la date, que tiens, c'est cette année notre 28e année de mariage, le 23 mai. Et alors je dis, mais Seigneur, toi tu fais pas d'erreur. Tu nous gâtes à cette occasion-là, parce que souvent avec mon épouse, cette date-là, nous l'oublions. Je me rappelle d'une fois où le 22 mai, nous nous sommes dit ensemble à voix haute, demain ce sera notre anniversaire de mariage, il ne faut pas que nous l'oublions. Et puis le 24 mai est arrivé, et j'ai dit, il me semble que hier on a dû oublier quelque chose. Mais je crois que Dieu voulait la figer cette date. Et puis alors, l'ami qui nous a fait ce cadeau téléphone, elle n'arrive pas à les avoir, elle retéléphone, et enfin elle arrive à les avoir pour une date qui se trouvait le 22 mai. Alors j'ai dit, bon, moi ça me va très bien, même le 22, c'est très très bien. Et puis hier, on était assis à table, je dis à mon épouse, écoute, enlève l'alliance, regarde quand même la date de notre mariage pour voir quelle est l'année, pour que je sois sûr que c'est le 20, que c'est 28 ans qu'on fête. Et puis elle ôte sa bague et elle regarde la date qui se trouvait dans la bague, le 22 mai 1987. Hey, Dieu se préoccupe de nous. Moi, j'avais oublié. Mais Dieu savait ce qui se trouvait derrière la bague. Dieu peut lire dans l'invisible. Dieu peut accomplir son œuvre pour prendre soin de chacun d'entre nous. Et alors, je bénis le Seigneur le 22 mai avec mon épouse. Nous allons fêter notre 28e anniversaire de mariage. Et vous savez ce que c'est le 28 mai ? C'est les noces de nickel. Et j'aimerais dire, Dieu est nickel dans ce qu'il fait dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Dieu est nickel. Dieu est nickel dans ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Et même si nous ne comprenons pas toujours, persévérons dans la foi. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplira bien mieux même que ce que nous pouvons imaginer. Et puis la troisième note que j'ai prise, c'est que Jésus fait des miracles encore aujourd'hui. Alléluia. Il est dit là, les disciples sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage et au verset 6, vous voyez qu'il ordonne à ses disciples de jeter le filet à droite de la barque. Et puis qu'ils ramenèrent une multitude de grands poissons. Jésus est le Dieu du miracle. Voyez-vous, ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il est proche des rien de notre vie. Ses disciples n'avaient rien pris, mais Jésus est très proche de ce rien du tout. Jésus a la capacité de faire quelque chose avec rien. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a pas besoin de matière. Il peut partir de rien, il est le créateur pour créer quelque chose. L'être humain a besoin de partir de quelque chose. Aussi petit soit ce quelque chose, ça peut être l'atome, l'infiniment petit, mais l'être humain est un inventeur, il a besoin de partir de quelque chose qui existe déjà pour faire autre chose. Mais Jésus, lui, est celui qui peut partir de rien pour faire quelque chose. D'ailleurs, quand vous lisez le livre de la Genèse, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la surface de la terre. Rien. Et à partir de rien, Dieu a créé la lumière. Et il y eut un matin, comme dans ce texte, il est dit que le matin, Jésus fut là. Peut-être que tu vis dans une nuit difficile, mais crois-moi, il y aura un matin. Et Jésus, dans ce matin-là, sera capable de faire avec rien quelque chose dans ta vie. À partir de rien, il est le créateur de toutes choses. Jésus est proche des riens extérieurs visibles de notre vie. J'en ai noté quelques-uns. Je n'ai plus rien à manger, plus rien sur mon compte en banque. Le médecin m'a dit qu'il ne pouvait plus rien faire face à ma maladie. Ou peut-être des riens intérieurs qui engendrent souvent des réactions extérieures. On a dit que tu es un bon à rien, un moins que rien. Alors ça, je ne sais pas comment on peut faire. Rien, c'est déjà rien, mais moins que rien, c'est déjà aller dans le négatif. Je ne sais pas si c'est si moins que rien peut être plus visible que rien. Tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie. Tu ne fais rien qui vaille. Du coup, tu te fâches pour un rien, tu as peur pour un rien, tu te disputes pour un rien. Et pourtant, disent certains, il s'en est fallu d'un rien pour que tu réussisses dans ta vie et qu'elle devienne, et pourtant elle est là alors, une succession d'échecs. Mais Dieu est un Dieu capable de partir à partir de rien pour créer quelque chose, parce qu'il est le Dieu de la création à partir de rien. Amen. Et de la même manière que ses disciples vivèrent une nuit difficile parce qu'ils n'avaient rien pris, Dieu est parti. Alors presque de rien, les poissons existaient quand même, mais ce sont devenus des poissons apprivoisés, à qui Jésus a dit « Maintenant vous sautez dans le filet ». Et voilà que les disciples vécurent le miracle. Il n'y a rien d'aussi beau que de venir auprès de Jésus qui est proche de toi quand rien ne va plus. Amen. Saisis-toi du miracle avec une foi, alors j'ai noté là, avec une foi trois fois rien. Pour moi, la foi grain de sénévé, c'est une foi trois fois rien, une toute petite foi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'avec rien, on fait rien. Parce qu'avec rien plus rien, on fait rien. Mais avec trois fois rien, on peut quand même faire un peu quelque chose. Des fois, moi, j'ai trois fois rien, mais avec trois fois rien. Des fois, Nadine fait la cuisine avec trois fois rien, et ça donne des plats excellents. La foi grain de sénévé ressemble un peu à cette foi trois fois rien, cette petite foi, mais qui nous permet de déclencher l'intervention de Dieu dans nos vies. Ayez une foi trois fois rien. Vous savez, c'est l'histoire de Pierre, puisque nous parlons de Pierre et de Jean, qui, dans le livre des Actes, voient le boiteux devant le temple. Cet homme qui n'avait jamais marché. Et alors ils regardent dans leur poche gauche et il n'y avait rien. Et puis ils regardent dans leur poche droite et il n'y avait rien. Rien et rien. Mais ils n'ont pas conclu face à ces deux rien qu'ils ne pouvaient rien faire parce que face à ces deux rien, il y avait une fois, trois fois rien. Oui, nous n'avons rien dans la poche gauche, rien dans la poche droite, mais nous avons une foi trois fois rien qui croit que Jésus est capable de te guérir. Maintenant, lève et marche, et il a marché. cet homme n'avait rien pour marcher. Mais Jésus a fait un miracle et il a créé une capacité de marcher. Quand les médecins disent « il n'y a plus rien à faire », quand les finances disent « il n'y a plus rien sur le compte », quand ceux qui t'entourent disent « tu as un caractère de cochon et plus personne ne peut rien pour toi », quand certains architectes disent « vous pouvez détruire les murs, il ne restera rien de l'agrandissement », quand les chaînes du péché te rendent captif et qu'il n'y a plus rien à faire, alors sache que Jésus est près de toi et que si tu comptes sur lui, eh bien d'un rien du tout, il créera quelque chose parce qu'il est le Dieu de la création. Amen. Et puis j'aimerais vous donner une quatrième note qui est un peu une conclusion. Voilà que Jésus s'approche de ses disciples et qu'il leur dit sur le bord du lac, qu'il leur dit de Tibériade, qu'il leur dit, eh bien, alors que vous avez pêché toute la nuit, maintenant, jetez votre filet du côté droit. Alors je vous assure qu'il n'y a pas de connotation politique dans ce que je dis. Hein. Aujourd'hui, gauche ou droite, vous pouvez jeter le filet à gauche ou à droite. Tout au plus, vous pêcheriez quelques requins. Pardon, ça m'a échappé. Merci beaucoup. Et il est dit dans ce texte, qu'ils pêchèrent 153 grands poissons. 153 grands poissons. Vous savez, ce texte est un peu particulier. On a l'impression qu'à partir du moment où Jésus leur ordonne de pêcher du côté droit les poissons, on a l'impression que le texte s'accélère. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là. Et puis ils pêchent les poissons, et voilà que le disciple que Jésus aimait, Jean, dit à Pierre qui était à côté de lui, tout nu. Bizarre ça, hein? Il lui dit, écoute, c'est le Seigneur qui a dit ça. Et voilà que Pierre s'habille, il se jette dans l'eau. Alors je ne sais pas s'il a nagé en direction de Jésus ou de l'autre côté. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait, pourquoi il a voulu se jeter dans l'eau. Probablement il a voulu se rapprocher de Jésus tout en pensant qu'il n'y a pas longtemps il l'avait renié. Et puis Jésus dit, alors que les disciples s'approchaient de lui et que lui était déjà passé à Lidl pour chercher du charbon de bois, pour chercher des allumettes, allumer le barbecue, mettre du poisson dessus. Voilà que Jésus dit aux disciples, mais allez chercher ce que vous venez de pêcher. Et alors Pierre, notre ami Pierre, il a couru, parce que Pierre c'est un coureur, hein. Lui il court dans tous les sens, il aime courir. Et puis voilà que Pierre court en direction des filets, et puis qu'il est marqué là qu'il y eut 153 grands poissons. J'aimerais dire deux choses par rapport à ça. D'abord, que c'était des grands poissons. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit de ses grandes bénédictions. Il n'est pas dit qu'ils pêchèrent 153 sardines. Vous savez, des fois on compte sur le Dieu des sardines. Et on a l'impression que Dieu n'a pas la capacité de nous bénir grandement. Mais en fonction de la taille de votre foi, Dieu vous permettra de recevoir une grande bénédiction. Parce qu'il est le Dieu des grandes bénédictions. Moi, quand je me lève le matin, ou même le soir, avant de me coucher, je regarde la croix, je regarde l'agrandissement. Et je dis, Seigneur, merci parce que tu es le Dieu des grandes bénédictions. Tu es le Dieu des grandes bénédictions. Tu nous accordes de grandes bénédictions. Et nous aimons compter tes bénédictions. Et puis la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y avait 153 poissons. Comment ont-ils pu savoir que le nombre des poissons était de 153? En général, quand vous voulez savoir quel est le nombre des bénédictions que Dieu nous accorde, vous comptez les bénédictions. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors, j'ai amené un 153e de la bénédiction que Dieu avait accordée à Pierre. Voilà, je vais vous la déballer, parce que c'est toujours... ça sent bon. Je trouve toujours bien de pouvoir imaginer la bénédiction de Dieu. Voilà un 153e de la bénédiction de Dieu. La bonne odeur de la bénédiction que Dieu nous accorde. Ce poisson, alors je ne sais pas si vous savez comment il s'appelle, c'est un Saint-Pierre. Yeah. C'est un beau poisson. Alors je voulais acheter 153 poissons, mais je me suis dit je vais exploser le budget de l'année 2015. Alors j'en ai acheté un. Et voilà ce que j'aimerais dire. C'est qu'alors que Jésus était en train d'attendre ses disciples pour manger le repas qu'il avait préparé avec eux, voilà que Pierre court et qu'il commence à compter la bénédiction que Dieu lui avait accordée. Un poisson, deux poissons. J'imagine que ce n'était pas facile à compter, hein, parce que les poissons venaient de sortir de la mer et très certainement beaucoup d'entre eux bougeaient encore. Alors il les prenait, il faisait attention de les mettre de l'autre côté pour être sûr qu'il les compte bien. Et puis 10 poissons, 12 poissons. Et pendant qu'il comptait les poissons, les autres disciples qui étaient à côté de Jésus, qui voulaient manger, eh bien commençaient à être impatients. Et Jésus... Merci. Et Jésus... Tu trouves que je sens, frère ? Voilà, il prend le 153e de la bénédiction... pour le mettre plus loin. Je vous promets, je vous imposerai pas les mains tout à l'heure. Et Pierre était en train de compter ses poissons, 12 poissons, 13 poissons. Et Jésus, Pierre, viens maintenant avec nous. 45, 46, 47, 48, Pierre. Oh, 70, 71, 72, 73, Pierre. Le poisson va être cramé. Viens manger, viens prendre du temps avec moi, viens prendre du temps avec nous. 152, 153. Enfin, Pierre avait fini de les compter. Et il a rejoint le Seigneur. Voyez-vous, j'aimerais terminer en vous disant qu'il y a trois choses qui peuvent devenir des concurrents à notre affection pour Dieu. L'expérience, la réussite, et notre agenda. L'expérience, parce que quand Dieu nous permet de vivre des expériences, alors on a envie d'y aller encore plus fort. Et on regarde l'expérience, on regarde la beauté de ce que Dieu a fait. La réussite, parce que quand on réussit, on aime observer de quelle manière on a réussi. On aime faire des calculs, on aime comprendre pourquoi on a réussi. Et on prend du temps pour analyser la réussite, pour analyser l'expérience. On prend du temps pour regarder les 153 poissons qui viennent d'être pêchés. Et puis agenda, pourquoi ? Parce que j'ose imaginer que finalement, sur la base de ce miracle, la pêche miraculeuse, les disciples ont peut-être dit, bah tiens, à partir de maintenant, parce que ça marche bien, lundi, on sortira pêcher, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Des fois, dimanche, pas toujours, mais des fois. Alors que Jésus est en train de nous attendre pour nous dire que la bénédiction dans le temps que nous prenons à la contempler peut voler l'affection de Jésus, il est important que nous comprenions que celui vers qui nous devons aller, celui qui, au travers de la réussite, de l'expérience, des miracles de notre vie, veut que nous posions le regard, non pas que sur cela. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le poser sur cela, compte les bienfaits de l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais je ne veux pas passer mon temps à contempler les bienfaits de l'Éternel sans me soucier d'abord que c'est l'Éternel qui m'a accordé les bienfaits. Et dire, Seigneur, oui, je veux compter, oui, je veux te remercier, oui, je veux me réjouir pour ce que tu as fait, mais c'est vers toi que je veux tourner mes regards. C'est vers toi que je veux aller. C'est une foi tournée vers celui qui est le Créateur. Seigneur, ne laisse rien me voler cette relation avec toi, cette affection, ce temps que je veux passer avec toi. Parce que de cette relation avec toi dépend tout le reste dans chacune de nos vies. Sam disait l'autre jour que dans la nuit, la lune brillait. et que la lune était finalement le reflet du soleil. Et parce que la lune recevait le reflet du soleil, à son tour, elle brillait dans la nuit. Nous devons, eh bien, être proches de Jésus pour recevoir ce reflet de Jésus, pour être comme Jésus. Et si, parce que nous sommes proches de lui, il nous donne la grâce d'être comme lui, alors et alors seulement, nous pourrons refléter qui il est. Et alors seulement, il pourra agir et accomplir son œuvre dans notre vie. J'aimerais terminer par deux ou trois témoignages SMS. Vous savez, j'aime beaucoup écrire aux jeunes par SMS. C'est un moyen très, voilà, un peu platonique des fois. Mais quand on sait y mettre les mots, ouais, c'est quand même chouette comme moyen. Et puis, en 2014, j'avais vécu un moment où j'ai dû aller à l'hôpital. Je m'arrête pas sur les détails. Et puis, il y a quelqu'un, un jeune du quartier, qui s'inquiétait un peu de ce que je devenais parce que j'étais passé par la case hôpital. Et je le racontais, j'ai eu l'occasion de le raconter une fois. Dans la journée, 7 fois, 8 fois, 10 fois, 12 fois, 15 fois, elle m'écrivait juste deux mots, cette personne. Ça va ? Juste ça va. Et ces deux mots, tout au long de la journée, m'ont montré que, waouh, cette personne s'intéresse juste de savoir si ça va. Et alors je me suis dit, Seigneur, mais c'est peut-être aussi des fois ce que tu veux faire avec nous, dans nos agendas qui sont pleins, face à notre réussite, face aux bénédictions que Dieu nous accorde, mais également dans l'épreuve, dans la difficulté, dans les moments difficiles, alors que nous nous agitons souvent pour essayer de nous en sortir. Dieu, de temps en temps, nous envoie un SMS juste pour dire « ça va ?»« Seigneur, attends, je suis occupé là, je suis en train de faire un calcul, là, je ne peux pas être dispersé. » Non, non, mais je te demande pas de te disperser, je te demande juste si ça va. » Et puis alors on s'arrête, et puis on se dit « Seigneur, mais tu demandes juste si ça va parce que tu t'intéresses à moi ?»« Mais ouais. » Ben oui, ça va, Seigneur. Ok, continue. Continue à faire ce que tu as à faire. Continue. Ce que tu fais, je t'ai moi-même demandé de le faire. Ce que tu fais, je t'ai donné les capacités de le faire. Ce que tu fais, je te donnerai les moyens de le faire. Mais ce qui m'intéresse plus que ce que tu fais, c'est qui tu es. Et alors, de temps en temps, s'arrêter dans le flot de nos difficultés, nos agendas, nos préoccupations, aussi bonnes fussent-elles, c'est de se mettre dans un coin et de dire « Eh oh Seigneur, je vais bien ou je vais pas bien. Et toi, tu interviens dans ma vie. Dieu s'intéresse à nous. Et ce qu'il veut, comme ce qu'il a voulu pour les disciples qui étaient là, c'est juste dire « ça va ». Puis j'aimerais juste terminer, j'ai bien d'autres histoires d'SMS, mais je vais terminer par ça. À Nouvel An, j'envoyais des SMS. Vous savez, j'aime pas trop les SMS en ligne. Pardon pour ceux qui envoient des SMS en ligne, merci de tout cœur. J'aime bien les SMS personnalisés. Alors ça prend beaucoup de temps. Dans le temps, ils envoyaient des cartes, ça prenait encore plus de temps. Donc, j'aime bien les SMS personnalisés. Et alors je prenais du temps pour envoyer des SMS, et alors quand j'avais fini d'écrire mes SMS, je me pose sur mon canapé et je dis « Ah, ça y est, j'ai envoyé à tout le monde. » Puis vous allez rigoler, ça m'appartient. Hein. Une petite voix intérieure qui me dit « Et moi ?»« Eh ouais, mais Jésus !» Alors j'ai créé un numéro de téléphone qui est le 8888888888. Comme ça, je suis sûr de m'en rappeler. Et j'ai envoyé un SMS à Jésus. Et je vous lis ce que je lui ai envoyé. Jésus, merci pour cette excellente année 2014, dans laquelle tu as été présent toujours et toujours, malgré mes faiblesses, mes peurs, mes doutes, mes chutes. Quelle joie de servir un sauveur aussi merveilleux que toi. Je veux t'aimer et aimer mon prochain. Être en 2015 un homme guidé uniquement par ta volonté, ne souhaitant rien d'autre que de te glorifier, toi qui es digne de toute ma louange, de toute mon adoration. Méga bisous Jésus et bonne année 2015. Yeah. Et alors quand j'avais écrit ce SMS, j'étais enfin paisible. J'ai dit, Seigneur, aide-nous à ne pas t'oublier, toi. Aide-nous à prendre du temps avec toi. Toi, tu nous aimes. Toi, tu te préoccupes de nous. Toi, tu prends soin de nous. Toi, tu accomplis des miracles dans notre vie. Mais aide-nous à nous préoccuper du Dieu de miracles et à prendre du temps avec toi. C'est la conclusion de mon message. Mais laissez-moi encore rajouter un appendice à la conclusion de mon message. Un tout dernier. La conclusion de l'appendice ressemble à la conclusion de la conclusion qui est marquée dans ce livre. Où il est dit, dans Jean chapitre 21, tout à la fin, verset 25, il est dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Puis-je conclure en disant que quand vous tournez la suite du passage de Jean 21, vous arrivez sur le livre des Actes des Apôtres. Et le livre des Actes des Apôtres, c'est ce que Jésus vient de dire à la fin de ce texte. Il dit là, il a fait beaucoup d'autres choses, mais il ne pouvait pas les écrire sur tous les livres. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il continue à écrire qui il est au travers de nos vies. Il utilise le stylo de notre vie, dans lequel il met l'encre du Saint-Esprit, pour continuer à écrire l'histoire de l'Église. Nous sommes de ceux qui devons continuer l'histoire notée, marquée dans la parole de Dieu. Non pas que nous devions rajouter quelque chose à la parole de Dieu. Tout ce qui y est écrit suffit pour chacun d'entre nous afin que celle-ci augmente notre foi et que nous puissions alors disposer des promesses de Dieu pour notre vie. Mais nous continuons, Église de Jésus-Christ, parce que dans Actes des Apôtres, il nous a donné le Saint-Esprit pour être des témoins. Il a mis de l'encre dans notre stylo. Il continue à nous utiliser pour écrire l'histoire de l'Église au travers de votre foi, de vos actes de foi, des réponses à vos actes de foi, au travers de sa grâce, au travers des cadeaux qu'il vous fait. Mais il écrit également son histoire à lui, au travers de qui Jésus est dans vos vies et au travers de vos vies. Alors peut-on dire, Seigneur, moi pour 2015, je voudrais être ce stylo dans ta main. Et je voudrais, eh bien, continuer sur la lancée de la conclusion de Jean chapitre 20 et Jean chapitre 21, et dire que si toi tu n'avais pas assez de place pour écrire tout ce que tu as fait dans tes livres, moi je veux continuer au travers de ma vie et d'une vie de foi à ton égard et à ce que dit ta parole, je veux continuer à écrire l'histoire de l'Église. À écrire, remplis-moi de ton esprit, mets en moi de l'encre divin, afin que ce qui est à l'intérieur de moi puisse jaillir vers l'extérieur. Et que je puisse, non pas me contenter des merveilleuses bénédictions que Dieu nous a déjà données. Oui, comptons-les. Oui, réjouissons-nous pour elles. Mais Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de grandes bénédictions. Et ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le prémisse de ce que tu vas accomplir. Parce qu'il y a encore à l'extérieur tellement perdu. Et nous ne pouvons pas nous contenter de ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Nous devons nous réjouir, mais nous devons dire, Seigneur, encore plus de toi. Mais pour avoir plus de toi, j'ai besoin que tu remplisses le stylo que je suis pour continuer à écrire l'histoire de l'Église. Amen. J'aimerais qu'on ferme les yeux un instant. Puis-je demander aux musiciens de venir ? Seigneur, merci de tout cœur parce que tu es tellement excellent. Et aujourd'hui, quelle que soit la manière dont que nous utilisons pour te parler, eh bien, nous voulons te dire combien nous sommes heureux de te servir. Heureux du Dieu que nous connaissons. Heureux de celui que nous avons le privilège de servir. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous décourager quand l'épreuve est là. Parce que l'épreuve, tu l'utilises aussi afin de mesurer et d'augmenter notre foi. Et quand nous sortons vainqueurs des difficultés, parce que plus que tout, nous croyons en toi, alors nous recevons le sceau du ciel. Appellation d'origine contrôlée par le ciel. Le Seigneur augmente encore et encore notre foi. Et dussions-nous passer par l'épreuve pour que notre foi augmente. Alors ma prière est, Seigneur, fais-moi passer par l'épreuve. Dussions-nous passer par l'épreuve pour réaliser que finalement, ce que nous avons besoin plus que tout, c'est du Dieu de la bénédiction. Du Dieu de la pêche miraculeuse. Alors Seigneur, fais ce que tu veux, mais on veut se précipiter dans tes bras. Et pas oublier que pour l'année à venir, comme dans les années précédentes, tu es celui qui est digne de louange, de gloire et d'adoration. Et Seigneur, permets-nous d'être ce stylo divin que tu utilises. Tu fais encore beaucoup d'autres miracles. Et Seigneur, tu utilises la vie de chaque précieuse personne ici présente. Chaque précieuse internaute qui sont à l'écoute pour continuer l'histoire de Jésus au travers de nos vies. Sois béni pour ça, Seigneur.